Monsieur le Président, messieurs du Haut Tribunal Militaire, vous me demandez de parler alors que j'écoute encore ce cri du cœur qui vient au plus profond de nous-mêmes de nous bouleverser parce qu'il nous restituait, au-delà de cette salle, un grand drame humain. Au moment où mes choix, quant à moi, l'honneur de plaider pour le général Salan, je crois que mon devoir essentiel est de rester strictement fidèle à la mission qui m'a été confiée. Je dois plaider, mais je dois plaider seulement. Je dois défendre, et je ne suis pas à cette place pour accuser. Et je veux, comme vous tous, messieurs, demeurer sourd aux rumeurs et aux indignations de la cité, parce qu'elles doivent s'éteindre à la porte de tous les prétoires de justice. Je dois plaider pour vous dire qu'il ne me paraît pas moralement possible que le Haut Tribunal Militaire prononce une condamnation définitive contre le général Salan. Mon but, c'est cette démonstration, et ce n'est que cette démonstration. Ma tâche essentielle va donc être de dégager des débats qui se sont poursuivis devant vous les lignes essentielles de mon effort. À mon sentiment, trois témoins ont dominé ces débats sans que pour autant la qualité des autres en fût diminuée. C'est à mon sens le révérend père Pascal, le général Valuy et le docteur Salan. Monsieur le procureur général a dit, monsieur Portolano et le révérend père Pascal, tant il est vrai que l'on peut différer sur ces sortes d'appréciations. Pour moi, c'est l'essentiel. Comment se résume-t-il? Le franciscain dit, étant donné le personnage que je connais et ce qu'on lui attribue, je dis faites la lumière. Le chef militaire déclare, il nous faut découvrir le choc extérieur qui a bouleversé cet homme et qui a fait de lui le chef d'une organisation secrète. Et le frère, j'allais dire le fraternel adversaire, précise, De Gaulle a comblé tous mes vœux, mais il a par là même abusé ceux qui, tel mon frère, avaient vu en lui le mainteneur de l'Algérie française. Où est, messieurs, le choc extérieur? Où est la lumière? C'est ce que, très simplement, nous allons essayer de rechercher ensemble pour parvenir à une vérité. Le Haut Tribunal retiendra que je n'ai pas dit à la vérité, mais pour parvenir à une vérité qui, j'en suis sûr, sera celle qu'en définitive, vous retiendrez. Il nous faut analyser ce drame, qui est né d'une certaine conception de l'intérêt national et du monde, d'une certaine méthode de prise de pouvoir et d'une certaine conception du gouvernement. Car ce drame que vous avez à juger, et cela est vrai, je ne l'ai entendu jusqu'ici expliqué réellement par personne. Une certaine conception de l'intérêt national et du monde. En 1956, il est incontestable, et M. Michel Debré nous l'a confirmé, que le général de Gaulle pense qu'après l'indépendance qui a été accordée à la Tunisie et au Maroc, il serait contraire à l'intérêt national de ne pas accorder cette même indépendance à l'Algérie. C'est, messieurs, son droit, c'est son sentiment, et comme il s'agit d'un homme d'action, il est parfaitement normal qu'il s'efforce de traduire ce sentiment en acte de gouvernement. Seulement, à l'époque, il sait aussi que le régime alors existant, la Quatrième République, est un régime trop faible pour accorder l'indépendance à l'Algérie. Elle ne pourrait pas supporter les remous qu'une telle décision entraînerait. C'est un premier point. Le second point est que le général de Gaulle sait aussi que lui-même est trop faible à lui seul et avec ses seuls amis de ce moment pour renverser la Quatrième République. Trop faible pour accorder l'indépendance à l'Algérie, trop forte pour succomber devant la seule attaque du général de Gaulle qui ne dispose à l'Assemblée nationale que de 13 députés. Que faut-il donc ? Il faut, pour mettre fin à ce système que m'a dit à votre bar M. Michel Debré, il faut une force qui soit extérieure au général de Gaulle et à ses quelques compagnons. Quelle est la force susceptible de lui prêter main forte pour revenir aux affaires ? C'est incontestablement la force de l'Algérie inquiète, de l'Algérie mécontente, qui, au début de cette année 1956, a obtenu, par la simple vertu de la projection de légumes, le changement du nouveau proconsul. Mais il existe un obstacle, c'est que cette force de l'Algérie, elle, est pour l'Algérie française, et que l'utilisation de cette force pour parvenir au pouvoir sera bien gênante après la prise de pouvoir, puisqu'elle s'opposera au but que l'on s'est fixé et qui est, dans l'intérêt national, l'indépendance de l'Algérie. Voici, messieurs, le drame contemporain dont nous vivons ici, l'épisode le plus douloureux, mais tel est bien ce drame. Nous allons assister à des prises de position catégoriques, violentes, définitives, non point du général de Gaulle que cela, évidemment, gênerait par la suite dans la poursuite du but qu'il s'est fixé, mais de ses compagnons et notamment messieurs Debré, Frey, Michelet, Soustelle, Delbecq. Aussitôt, deux catégories de compagnons se forment. Les uns savent quel est le but, quelle est la pensée profonde du futur chef de l'État. Ce sont messieurs Debré, Frey, Michelet. Ils resteront après. Messieurs Soustelle, Delbecq et autres qui, eux, partiront, mais qui, au départ, dans un même courrier de la colère, collaborent tous ensemble à exalter l'Algérie française, ne savaient pas, et ils vont jusqu'à affirmer Michel Debré, 3 février 1958, « Craignez, lorsque nous aurons bu le calice jusqu'à la lie, que ne se forme un FLN français. » Le haut tribunal militaire, avec un sourire, j'espère, verra simplement jusqu'à quelle outrance extraordinaire allaient messieurs Debré et compagnons pour affirmer le degré de leur attachement à la souveraineté française en Algérie. Ces hommes estiment, à ce moment, que ce travail va porter ses fruits à partir de la date à laquelle l'on peut régulièrement compter sur une petite organisation à Alger qui est sans chef, qui est sans troupes, qui est constitué de fanatiques d'origines diverses, de bonne foi, mais sans aucune espèce de rayonnement. On croit, parce que l'on n'a pas d'expérience, qu'il suffira avec les articles que l'on écrit, les questions écrites que l'on pose et tout ce tintamarre, qu'il suffira d'une action d'éclat particulièrement spectaculaire pour voir se ranger à ses côtés la communauté européenne d'Algérie et ainsi renverser la Quatrième République. À plusieurs reprises, vous, monsieur le procureur général, vous-même, monsieur le président, vous êtes interrogé sur le point de savoir pourquoi, dans l'affaire du général Salan qui intéresse l'OAS, il avait été parlé de l'affaire du bazooka, et parfois trop longuement. C'est simple. C'est parce que l'affaire du bazooka n'est pas le procès que vous avez à juger, et j'en suis le premier d'accord, mais elle est en même temps dans le procès, à partir du moment où elle peut être considérée comme une minuscule répétition du 13 mai. Il est intéressant de savoir qu'il s'agit en somme de la période romantique de la prise du pouvoir par la chute de la Quatrième République. On se meut dans un univers incompréhensible si ce fil d'Ariane n'est pas préalablement donné. Ce sera un échec. Un échec d'autant plus navrant qu'il causera la mort du commandant Rodier J'en aurai assez dit sur ce plan, puisque j'ai replacé dans son cadre véritable, dans son caractère de tentative avortée, ce qui n'était à la vérité qu'une simple répétition. Il faudra, messieurs, plus d'une année de travail, d'excitation quotidienne, de questions orales, d'interpellations tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour parvenir à réaliser cette conjonction, le général de Gaulle d'une part, et la force nécessaire pour mettre fin au régime d'autre part. Tous ces faits, messieurs, sont connus non seulement de tous les membres du haut tribunal militaire, qui, avec une grande longanimité, ont entendu parfois, et je m'en excuse pour la défense, redire très souvent des faits dont il avait déjà une connaissance certaine. C'est pourquoi le 13 mai est important, dans la mesure où il constitue un épisode capital. Mais de la vie du général Salan, il est comme le bazooka. Il n'est pas le procès. Il est simplement dans le procès. Dans le procès, mais à sa place. Et sur le 13 mai, je ne dirai rien d'autre que ce qui peut vraiment apporter une preuve cardinale à l'explication que je viens d'avoir l'honneur de vous fournir. Je la trouve dans les débats parlementaires du Sénat. M. Pflimlin déclara le 21 mai, il était, messieurs, le chef du gouvernement de la République, du gouvernement légitime, monsieur le procureur général. Il s'exprime ainsi. Le gouvernement a donc fait confiance au général Salan, et même si j'ai pu, à un moment donné, faire des réserves sur certaines décisions, je déclare que jamais le général Salan ne s'est comporté d'une manière qui permette de douter de son loyalisme à l'égard des institutions républicaines. C'est pourquoi ses pouvoirs ont été maintenus, et nous avons d'autant plus de raisons de le faire que jamais les contacts entre Alger et Paris n'ont été rompus. Ce complément au portrait du général Salan, venant du chef menacé du gouvernement de la République, n'était pas inutile à vous fournir, il y en a un second. M. Robert Lecour, qui dirige la justice, et comme c'est son devoir par l'intermédiaire de ses parquets, qui donne l'ordre de décerner un certain nombre de mandats d'amener, M. Lecour s'exprime ainsi. En vérité, je veux une fois de plus le redire, il n'y a dans l'esprit du gouvernement aucun doute, et je le déclare à M. Michel Debré, aucune volonté d'artifice, il y a dans cette réalité que la nation française, dans son immense majorité, demeure fidèle à la République, M. Michel Debré interrompant, au général de Gaulle. Par conséquent, messieurs, je pense que l'explication continue à être particulièrement fondée. Et quand M. Pflimlin parle de missionnaires civils, n'ayant aucune attache avec les milieux militaires et qui sont partis pour Alger, dans l'intention de renverser le gouvernement de la République, il a raison. Que sont devenus les missionnaires civils? C'est-à-dire M. Soustelle, M. Debré, M. Delbecq. Ils sont venus, messieurs, M. Delbecq bien avant les autres, rendre visite au général Salan. Et ils sont venus lui demander quoi? Un engagement. Or, voulez-vous bien noter, messieurs, qu'il a été suffisamment parlé de serments, de garants et d'engagements pour que je donne un sens très précis à ce mot. Ce qui est demandé au général Salan, c'est de s'engager à crier « Vive de Gaulle » sur le forum, et à se mettre ainsi dans une certaine mesure, en contradiction avec les ordres qu'il reçoit de Paris, et avec la parfaite considération dont il jouit auprès du gouvernement de la République. Général Salan, messieurs, n'a pas seulement avec ses pèlerins civils une conversation. Il lui est montré des documents, au vu desquels il estime qu'effectivement, La meilleure solution pour éviter que la guerre civile s'étende à la métropole, en quoi je pense qu'il a tort, car pour une guerre civile, il faut des combattants et les vacances approchent. La meilleure solution, c'est d'appeler le général de Gaulle. C'est la meilleure solution pour empêcher cette guerre civile qui menace, et d'autre part, pour que désormais, sans nul doute, le destin français de l'Algérie, car je préfère cette formule raisonnable au slogan, soit définitivement acquis, je dirais même stabilisé. Alors, monsieur le procureur général, c'est à ce moment précis, si le haut tribunal militaire veut faire exacte justice, c'est à ce moment précis qu'il doit se placer pour apprécier quelles sont la valeur et l'étendue de l'engagement pris par le général Salan, ainsi que les éléments qui étaient à sa connaissance, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. Nous serons bien d'accord sur ce point. Or, le général Salan, et je vais vous en apporter une preuve de la main même du général de Gaulle, ne sait pas quelle est la véritable pensée du chef de l'État telle que M. Debré nous l'a exposée à cette barre. Il l'ignore. Le fait est tout à fait naturel pour ceux qui veulent le retour du général de Gaulle aux affaires. Il faut que le général Salan ignore cette pensée profonde. Pourquoi ? Voici les deux branches de l'alternative. Ou bien le général Salan, et c'est possible, approuve la pensée réelle du chef de l'État et estime qu'en l'état de l'évolution générale du monde, de la situation internationale et de l'intérêt national bien compris, il est effectivement souhaitable de donner l'indépendance à l'Algérie. Général Salan peut l'estimer si les éléments d'appréciation lui sont fournis. Seulement, monsieur le procureur général, d'abord, on ne le lui demande pas. Et ensuite, si on le lui demandait, même s'il approuvait, il ne pourrait pas s'engager. Il ne le pourrait pas, j'en appelle aux membres militaires du haut tribunal, et aussi, ils me le permettront, aux membres civils, tout civil ayant été dans sa vie quelque peu militaire, il ne le pourrait pas, car à la différence du général de Gaulle, qui est un homme d'État, le général Salan est un homme d'armes. Et ce qui est permis, ce qui est autorisé pour un homme d'État, la ruse, la feinte, qui sont des armes normales, connues et habituelles de l'homme d'État, l'homme d'armes ne peut pas les accepter ni les employer. Pourquoi ? C'est, messieurs, la canne de jonc qui nous répond avec monsieur de Vigny, parce que la différence entre l'homme d'État et l'homme d'armes, c'est que l'homme d'État écrit sur du papier avec une plume et que l'homme d'armes écrit dans la poussière avec son sang et avec le sang de ceux dont il a la charge. Il est impossible, si le général Salan connaît la pensée profonde du chef de l'État, de s'engager s'il approuve cette pensée, et s'il la désapprouve, il ne peut pas s'engager non plus, et il ne s'engagera pas. Or, il faut bien que le général Salan s'engage. Il le faut pour permettre la prise du pouvoir par l'intermédiaire de la force de l'Algérie. C'est lui qui en est la clé de voûte. Il le faut. Le général Salan s'est engagé en ignorant le but final de l'opération. Reconnaissez, messieurs, et reconnaissons, si vous le voulez bien, tous ensemble, que dans cet engagement, il n'avait pas les éléments de connaissance qui lui eussent permis de le prendre librement et de jouir de son libre arbitre. Et cela est si vrai que l'été passé, le triomphal référendum du 28 septembre passé, le général de Gaulle, le 24 octobre, écrit au général Salan ceci, j'ai le manuscrit. Mon cher Salan, tout va vite en ce moment, au moins en apparence, mais ce n'est pas dans le mauvais sens. L'ensemble de la nation française fait maintenant bloc sur quelques idées simples. On ne doit pas lâcher l'Algérie. Quant aux affaires politiques, statut ou non, on verra plus tard. Cela étant, on pourrait voir un jour ou l'autre l'organisation Ferhat Abbas demander à envoyer des délégués dans la métropole. En pareil cas, ces délégués ne seront pas amenés à Paris. Ils ne verront dans quelques coins de France que les représentants du commandement militaire. Ils ne seront admis à parler que du cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu comportera nécessairement la remise des armes des rebelles à l'autorité militaire. Le général de Gaulle, qui vient de prendre une position non équivoque, et c'est, messieurs, le 24 octobre 1958, confirmant ainsi le général Salan dans la vérité et la réalité de son engagement, ajoute ceci. Je vous dis cela à vous seul, pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Naturellement, ne le répétez pas. C'est important. C'est important, messieurs, parce qu'on ne voit pas comment il peut se trouver un secret d'État dans le fait d'expliquer les conditions draconiennes auxquelles seront soumis ces pauvres plénipotentiaires du FLN que nous apercevons déjà dans un canton près de Romorantin en train de discuter de la manière dont ils vont livrer leurs armes aux forces de l'ordre. Mais cela s'explique. Et même parfaitement. Il suffit de savoir que 2 mois avant le départ de cette lettre, M. Pompidou prenait contact, non point pour des conversations en vue du cessez-le-feu, draconien, mais pour des conversations politiques à Lausanne avec l'organisation Ferhat Abbas, et que les résultats étaient jugés encourageants. Vous pouvez ainsi vérifier, messieurs, vous qui allez juger le général Salan, qu'il n'a pas été placé dans des conditions qui lui permettaient de se prononcer librement, pas davantage ne lui fut-il permis de se désengager. Et il ne fallait pas d'ailleurs qu'il se désengageât trop tôt. Général Miquel est venu à cette barre vous parler de son voyage à Alger, que l'on appelait couramment à l'époque l'opération Deuxième Vague. La réussite de cette opération eut donné une conclusion qui était du général Miquel lui-même. Je fais au général de Gaulle ce qu'il a fait à M. Pflimlin. Général Salan, quant à lui, demeure dans la ligne de fidélité. Sa conviction est conforme à son engagement. Je pose alors respectueusement au haut tribunal militaire la question suivante. Est-ce que moralement, au vu de ces pièces et de cette explication claire, il est possible de donner tort à l'homme d'armes en ne donnant aucun tort pour autant à l'homme d'État? D'ailleurs, l'homme d'État, messieurs, va éprouver des préoccupations considérables. Le pouvoir est pris, c'est bien. Mais il est pris avec la force algérienne, qui représente justement la force de l'Algérie de statut et de souveraineté française. Or, ce n'est point cela qu'il faut dans l'intérêt national. Et l'homme d'État se trouve donc avec la charge d'une opinion publique métropolitaine qui n'est point facile à ce moment-là à gouverner. Elle enverra, ne l'oublions pas, à l'Assemblée nationale 424 parlementaires élus sur le thème de l'Algérie française sur 570. Il faut donc, en premier lieu, désamorcer cette opinion. Mais il faut la désamorcer discrètement, ainsi. Dans le même temps que le référendum s'était déroulé en Algérie, avec oui à la France, oui à l'Algérie française et autres fariboles, vous constaterez que le programme se déroulait de manière très minutieuse. Je pose la question, le général Salan était-il au courant? Et tout ce qui se passait à ce moment n'était-il pas infirmé de manière décisive par la lettre du 24 octobre 1958 dont je viens de vous donner connaissance et signée Charles de Gaulle? Le chef du gouvernement, en plus de l'opinion métropolitaine, a encore la charge, en cette fin du mois d'octobre 1958, d'une constitution. C'est une charge, parce que c'est une constitution qui a été adoptée dans la ligne du 13 mai, et qui, en ce qui concerne l'Algérie, précise qu'il s'agit de départements français. Mais ce qui intéressera profondément, en ce qui concerne la connaissance que le général Salan peut avoir de l'inflexion de la politique algérienne, et c'est cela qui, après tout, détermine le comportement du gouverneur des Invalides et sa pensée, c'est le discours lui-même. Le général de Gaulle a dit le 28 septembre dernier, les Algériens ont par référendum adopté la Constitution et marqué leur intention que leur avenir se fasse avec la France. Je confesse au nom du général Salan qui me l'a dit et que je crois que le mot « avec » lui avait échappé. Vous savez en effet que jamais la Constitution de 1958 n'a dit que l'avenir de l'Algérie se ferait avec la France. D'abord, l'avenir est fixé. Et ensuite, cet avenir est dans la France, puisqu'il est spécifié qu'il s'agit de départements français. Ce petit mot, messieurs, et vous voyez l'immense habileté de l'orateur, ce petit mot remettait précisément en question les termes mêmes de la Constitution. Mais cela n'avait qu'une importance limitée. Car à quel passage du discours le général Salan a-t-il accordé véritablement une importance pour savoir s'il s'était trompé ou s'il était trompé? Parlons franc, messieurs. C'était celui-ci qui l'a pleinement rassuré, et c'était bien naturel. À moins que ce soit l'œuvre d'un groupe de meneurs ambitieux, résolus à obtenir par la force et par la terreur leur dictature totalitaire, en croyant qu'un jour la République leur accorde le privilège de traiter avec eux du destin de l'Algérie, les bâtissant par là même comme gouvernement algérien, il n'y a aucune chance que la France se prête à un pareil arbitraire. En lisant un texte comme celui-là, le général Salan était parfaitement fondé à croire que rien n'était changé, que tout se poursuivait, que son engagement était le bon. Il ne lui avait manqué que d'observer le mot « avec » et sa terrible signification.